À l'occasion des deuxièmes rencontres départementales de l'édition indépendante, qui se tenaient le 18 et 19 septembre à Marseille, la Grenouille est allée promener son micro du côté de quelques éditeurs indépendants de la région et d'ailleurs. Raphaël et Gilles, membres de la maison d'édition marseillaise Agone, nous livrent leur vision de l'éditeur indépendant.
Alors Agone est au niveau de ses statuts une association. Donc elle est indépendante du point de vue des capitaux. Elle est indépendante du point de vue des décisions éditoriales. C'est des décisions prises en commun. On choisit les livres qui nous plaisent. Donc oui, on est indépendant. Même si donc on est, il y a forcément des contraintes à respecter. Parce qu'on vit dans un monde de toute façon qui est l'économie de marché. Donc forcément, tu as des contraintes, que tu le veuilles ou non.
Il y a beaucoup de débats dans l'édition indépendante, entre guillemets, puisque certains se revendiquent indépendants. Or, en fait, ils sont concrètement adossés à des grosses structures capitalistes, des énormes maisons d'édition. Et donc, pour nous, ce n'est pas qu'une question de faire le livre que je veux dans son coin. C'est-à-dire, si c'est pour se donner une bonne conscience ou une image de gauche, on va dire, ou engagé... à un gros conglomérat, ça ne nous intéresse pas. Donc l'indépendance, elle se voit à la fois en termes politiques et en termes économiques. C'est très important que les deux soient associés. Les livres, on les fait, et on va demander des subventions. Qu'on les ait ou qu'on les ait pas, ces livres, on va les faire. C'est pas la subvention qui va nous dire, bon bah ok, du coup on a la subvention, le livre on le fait, sinon on l'aurait pas fait. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les livres, on les fait avant tout parce qu'on a envie de les faire. C'est vrai qu'après, s'il y a moyen d'avoir des subventions, on est tous payés au SMIC, tous et toutes payés au SMIC ici. Et c'est vrai que les subventions permettent aussi, d'un point de vue financier, c'est pas négligeable.
Nous permet aussi de prendre, quand même, pour nuancer ce que tu dis, plus de risques sur les projets de traduction. Il y a des projets de traduction qui sont très très onéreux. Par exemple, récemment on a traduit Carle Rosa, donc le quatrième tome d'un roman historique allemand qui fait 800 pages. Donc 800 pages traduit l'allemand, c'est un coût faramineux. Si on n'avait pas eu d'aide du CNL, on n'aurait pas pu se lancer dans ce projet pharaonique, quoi.
Franz Olivier, fondateur de la maison d'édition Anacharsis, une maison d'édition toulousaine, nous expose sa propre définition de l'éditeur indépendant.
La notion d'indépendance appliquée à l'édition, à mon avis, reflète d'abord une indépendance d'un côté économique. C'est-à-dire que les choix d'édition que l'on fait ne sont pas assujettis à des impératifs bénéficiaires. Ce qui veut dire qu'un éditeur indépendant est, selon moi, un éditeur qui édite rigoureusement ce qu'il veut parce qu'il en a l'intention et les moyens. Donc le fait que l'on soit, par exemple, soutenu par la région Midi-Pyrénées régulièrement peut mettre en cause l'appellation indépendante. Et en même temps, étant donné qu'on est parti dans cette maison d'édition sans aucun fonds propre, pour le coup, les services publics ont aussi fait un véritable travail de politique du livre en nous soutenant d'une certaine façon, parce que nous n'avions pas les moyens autrement de faire exister cette maison d'édition, ce qui n'aurait pas été le cas si on était sorti de certaines grandes familles ou de certaines grandes entreprises éditoriales qui peuvent parrainer comme ça des enfants, des héritiers. Ça a été, comme nous sommes les fondateurs de la maison d'édition Anacharsis, nous sommes d'abord de formation historienne, ça a été de donner à lire des textes anciens et des textes lointains. Et donc notre démarche, c'est de proposer des textes qui sont parfois des documents et de les proposer en tant qu'expérience littéraire. Dans le sens où les écrivains de tout temps, toute personne ayant pris la plume à un moment donné, s'est risquée par l'écriture a donné sa contribution à la littérature de façon générale et a proposé à son lecteur, de façon séduisante ou pas, de façon construite dans tous les cas, une expérience de la vie transmise par la littérature. Et donc c'est ce dans quoi nous sommes, c'est la présentation comme ça d'une lecture en décalage, en périphérie, inhabituelle dans tous les cas, qui va mener à découvrir, à expérimenter, disons, des littératures inhabituelles.
Alors, dans l'historique de votre maison d'édition, Agone, vous exprimez clairement le fait que votre projet éditorial correspond à un projet politique.
Ça se retrouve, le projet politique, à la fois dans la façon dont on travaille et dans le contenu des livres. Alors, pour la façon dont on travaille, par exemple, on essaye de limiter la spécialisation de chacun. Donc, on essaye de chacun pouvoir toucher à tous, partager les tâches qui sont moins marrantes. On essaye d'avoir un degré, on va dire, d'autogestion, donc de partage des tâches, d'équité de salaire, de décision collective. Voilà, donc la façon de travailler pour nous très importante, presque autant que les livres que l'on fait. C'est aussi montrer qu'on peut travailler d'une autre façon, qu'on peut travailler avec des valeurs qui ne sont pas celles d'une entreprise classique orientée sur le profit. Et après, sur le contenu des livres, il s'agit principalement de pouvoir donner des outils qui permettent de comprendre le monde dans lequel on vit. Donc des essais d'analyse du fonctionnement des médias, d'analyse de la politique française avec ses anciennes colonies, puis revenir aussi sur des luttes, les luttes passées pour mieux comprendre les luttes présentes ou anticiper les luttes à venir. Voilà, c'est des choses comme ça.
Vous dites vous démarquer de la logique du marketing en publiant jamais un livre en fonction de sa possible rentabilité, en fonction de la notoriété de son auteur ou en fonction de l'actualité du sujet. Pourtant, quand on lit votre catalogue 2009, on voit que vous publiez des auteurs célèbres comme George Orwell ou Max Weber, des ouvrages en référence directe avec l'actualité comme celui de Sophie Vanish, Comment Nicolas Sarkozy écrit l'histoire de France, ou encore, pour en citer un dernier, À quoi sert l'identité nationale de Gérard Noriel. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une contradiction entre la volonté de répondre à des questions contemporaines et le fait de ne pas vouloir éditer des livres en fonction du sujet ou de la notoriété de l'auteur?
On ne publie pas que des auteurs inconnus. Les ouvrages qu'on fait, ils mettent beaucoup de temps à se faire. Ça se fait pas un ouvrage, ça ne se fait pas en 3 mois. Donc, par exemple, de toute façon, on ne veut pas répondre à l'actualité, on ne peut pas le faire. Après, c'est vrai qu'on n'est pas non plus extérieur complètement aux contraintes économiques, parce qu'on a fait le choix que les gens qui travaillent à Agone soient rémunérés. C'est-à-dire tous les gens qui participent aux ouvrages d'Agone, ils sont rémunérés. Donc quand on... Ça rentre aussi en ligne de compte quand on va faire un ouvrage. Mais on ne va pas faire un ouvrage parce qu'on sait qu'on va en vendre. Il y a une collection qui s'appelle la collection Mémoire sociale, où il y a un certain nombre d'ouvrages. On sait que c'est des ouvrages dans lesquels, par exemple, on ne rentrera pas dans nos frais. Je ne sais pas comment le dire. En tout cas, il y a aussi un peu un équilibre. On sait qu'il y a des ouvrages qu'on vendra plus et des ouvrages qu'on vendra moins. Donc, c'est un espèce de jeu d'équilibre. Mais tous ces ouvrages nous paraissent intéressants et pertinents à faire.
Franz Olivier, fondateur de la maison d'édition Anacarsis, pensez-vous qu'une maison d'édition indépendante peut durer dans le temps?
C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. J'ai notamment beaucoup de collègues et amis qui sont des éditeurs, qui sont de vénérables éditeurs et qui ont 30 ou 20 ans d'âge. Je pense à Champvallon, je pense aux éditions Millon, Jérôme Millon par exemple. La Fosse aux Ours, qui est un peu plus jeune, mais qui aussi est quelqu'un qui travaille seul et qui fait un excellent travail. Bon, je pense que ces gens sont l'exemple vivant du fait qu'il est possible d'exister, de durer, malgré un échelon économique dans lequel ils se situent, qui est l'échelon maigre de l'édition française. Je pense, oui, qu'il y a possibilité toujours d'asseoir une maison d'édition pour la solidifier, pour la pérenniser, pour la projeter dans les 10, 15, 20, 30 ans à venir, à condition de rester sur une attention portée particulière à la production de livres, à la logique dans laquelle on se situe, c'est-à-dire élaborer un catalogue. Je pense qu'en tout cas, il est rendu possible le fait d'exister pendant longtemps sur un catalogue. Et qu'ensuite, un catalogue, par contre, y compris après la disparition d'une maison d'édition, je pense qu'il continue d'exister. Et donc, c'est aussi un moyen de passer des choses pour le futur, pour l'avenir, disons, que l'élaboration d'un catalogue et la logique de ce catalogue-là, en dehors de toute considération triviale du moment. Comment nos héros vont-ils encore arriver à s'en sortir le mois prochain? Ça, c'est des questions récurrentes auxquelles on répond au jour le jour.
Ne craignez-vous pas que la pérennisation de votre maison d'édition passe par son agrandissement et que cela vous expose à faire toujours plus de concessions éditoriales?
Le danger d'une croissance avec l'assujettissement de plus en plus massif et grave à des impératifs bénéficiaires. Oui, c'est vrai que c'est un danger. Ensuite, c'est à chacun. Enfin, il faut savoir le gérer en fonction des convictions que l'on a. Ce sont des considérations autant personnelles qu'économiques que collectives au sein des personnes qui travaillent dans une maison d'édition à poser. Et c'est une question, c'est une véritable question. Et en même temps, je pense que la réponse ne vient que devant les moments où le risque se pose, s'incarne véritablement dans le fait de se dire bon, mais tel livre, je vais l'éditer parce que je sais que j'ai besoin de faire telle marge bénéficiaire, parce que j'ai besoin de faire tel chiffre d'affaires pour cette année, etc. Bon, c'est une question qu'on se pose déjà, mais on se la pose après d'abord s'être demandé comment faire en sorte que tel livre que l'on a choisi de faire fonctionne. C'est-à-dire de prendre les choses à l'envers. Et donc, tant qu'on prend les choses à l'envers, on est toujours garanti d'avoir une liberté de choix. Et puis ensuite, retourner la question et se dire « Est-ce que je fais ce livre parce qu'il va marcher ?» et non pas « Ce livre me plaît, donc je le fais ». Toute la question, et c'est une position éthique dans laquelle on est encore une fois libre de son choix.
Vous pouvez retrouver ces éditeurs indépendants Anacharsis, Agone et bien d'autres encore sur atles.org, A-T-H-E-L-E-S et lecti-écriture.com, lecti, lekti-écriture au singulier.com.